On va ouvrir nos Bibles. C'est bien, non, ça? Ouvrir sa Bible. Un culte sans ouvrir la Bible, ça serait un comble. On va ouvrir nos Bibles. Et je vous invite à l'ouvrir premièrement. On va faire trois lectures. Dans le livre des Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11. Éphésiens chapitre 4 et verset 11. Et j'ai besoin vraiment de prier avant. Seigneur, je te demande encore tout ton secours, toute ton assistance, l'assistance de ton Saint-Esprit pour apporter et partager ce message qui est sur mon cœur. Je te demande moi-même de me bénir en m'aidant, mais aussi à chacun d'entre nous, de nous aider à ouvrir nos cœurs et à laisser ta parole faire l'effet qu'elle veut faire en nous. Et qu'elle a besoin de faire en nous pour que nous puissions être propres au service accompli, pour faire toutes sortes de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous voulons vraiment, Seigneur, pas que ces moments soient, eh bien, un beau discours, que ce soient des mots bien choisis, mais surtout nous voulons que nos cœurs soient touchés par toi et que tu puisses agir en nous. Alors s'il te plaît, s'il y avait des inquiétudes, des soucis dans les cœurs de quelques-uns, des souffrances peut-être dans leur corps qui empêcheraient quelqu'un d'être béni ce matin, eh bien tu balais tout ça, Seigneur. Tu guéris, tu fais ton œuvre, Seigneur, s'il te plaît. Que la gloire te revienne à toi. Nous voulons vraiment être disponibles ce matin pour que tu puisses nous utiliser, nous bénir, nous parler. Vraiment, c'est ça le désir de mon cœur. Je ne veux pas convaincre par moi-même, je ne chercherai pas à le faire, je l'ai décidé, je ne le ferai pas. Mais je te demande à toi de pouvoir faire ton œuvre. Je veux juste être un canal pour faire passer, Seigneur, ton message. Et toi, tu fais tout ce qui m'est impossible de faire. Merci encore pour ta présence qui est palpable ce matin. Parce que je sais que tu es là, Seigneur. Et je sens aussi que tu es là. Merci encore pour tout ce que tu fais encore et ce que tu feras. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On lit au verset 11, Éphésiens 4, verset 11. Le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. On fait une autre lecture dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. Je noterai dans ce premier chapitre qu'il est dit que l'Église a un ministère. L'Église a une mission à accomplir. L'Église a un rôle. C'est dit clairement dans cette lecture qu'on vient de faire. Et je continuerai avec donc 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. De Timothée, chapitre 4, et verset 5. On pourrait commencer au verset 3. De Timothée 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Amen. Vous avez vu que le point commun de ces trois textes, c'est un ministère et c'est le fait d'aimer, de prêcher, de professer la vérité. La vérité, parce qu'il est dit qu'il viendra un temps où la vérité ne sera plus aimée, il n'y aura plus l'amour de la vérité, il n'y aura plus un amour pour les choses vraies, pour la parole de Dieu simple comme elle est, il y aura un amour pour toutes sortes de fables, de doctrines, de réflexions, qui sont toutes sortes de choses mauvaises, séduisantes. Mais Dieu veut que son Église son peuple. Et chacun d'entre nous, individuellement, j'ai pris un texte qui parle à Timothée, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Mais je crois que vu qu'on a tous un ministère, puisqu'on fait partie du corps de Christ, on a tous cet appel de Dieu à professer la vérité, à être cette lumière dans la terre, sur la terre, pour éclairer les hommes, ces témoins sur la terre, remplis du Saint-Esprit, pour éclairer ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres. Je crois qu'il nous faut, nous, nous appliquer à aimer la vérité. Vous savez ce qui m'a souvent marqué à la Pâque, à Pâques, au temps de Pâques? C'est qu'on nous présentait des gros œufs en chocolat, mais à l'intérieur, ils étaient vides. Et je me dis, on se fait avoir, parce qu'on nous présente un gros truc, vous voyez, mais dedans, c'est tout vide, bien souvent. Alors, quelquefois, si on le paye cher, peut-être que c'est un peu plus rempli, la coque, elle est plus ou moins épaisse. Et selon l'épaisseur de la coquille, on sait que c'est plus ou moins cher. Mais nous, on ne veut pas être une église, une coquille vide. On veut qu'il y ait quelque chose dedans, qu'il y ait la vie dedans, comme un poussin qui naît dans l'œuf, qui grandit. Je dis ça parce que j'ai des poules qui sont en train de couver et j'ai miré l'œuf. Vous savez, j'ai miré les œufs. Vous savez ce que c'est? On les met à une lumière, on met un faisceau lumineux devant et on plonge la pièce dans les ténèbres et on regarde et on voit le poussin à l'intérieur qui grandit. Et je veux qu'il n'y ait pas une coquille vide dans notre église, qu'on ne soit pas vide, mais rempli de la vie du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, pour professer la vérité, pour annoncer ce message, ce beau message que Jésus a demandé à chacun d'entre nous d'apporter autour de nous. Il parlait à ses disciples quand il a dit « Allez, par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. » Et à nous-mêmes, il nous demande à chacun d'être des témoins sur la terre. S'il remplit du Saint-Esprit, c'est pour faire de nous des lumières, des témoins sur la terre. Il était la lumière lorsqu'il était sur la terre. Il disait, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais plus à un autre moment, il dira, vous êtes la lumière du monde. Jésus physiquement n'est plus là. Il a besoin de quelqu'un physiquement présent pour être la lumière, pour être un témoin. Et il nous a choisis à nous. Il nous a sauvés, mais il veut nous utiliser pour que le monde soit sauvé. Alors voilà, on a une grande mission. Et on doit s'efforcer de nous présenter devant Dieu comme une église éprouvée. Une ouvrière ou des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Je crois qu'il nous incombe à chacun de dispenser la vérité, d'être ces témoins qui annoncent la vérité. Et on va voir que ce n'est pas simplement verbal, mais surtout par notre comportement et notre manière de vivre, par notre manière de nous rassembler, par le saint respect qu'on aura de la maison de Dieu, par le saint respect qu'on aura de nos frères, de nos sœurs, par le fait qu'on arrivera à supporter les uns les autres, alors qu'on est si différents tous, on va arriver à se supporter. Parce que Dieu nous a remplis et nous remplit du Saint-Esprit pour qu'on arrive à se supporter les uns les autres. Me supporter, moi, c'est pas facile. Je vous tire mon chapeau, mais je sais que vous n'êtes pas tout seul à y arriver. Et si vous allez y arriver, c'est parce que le Saint-Esprit va vous y aider. Je parle de moi, mais chacun d'entre nous, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que la vérité soit annoncée, soit professée. Soyons sobres en toutes choses, supportons quelques souffrances, faisons l'œuvre d'une évangéliste. Je crois que l'Église est appelée à être une lumière, c'est-à-dire d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Remplissons bien notre ministère. Amen. Et pour cela, j'ai eu à cœur de prendre cet exemple de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, on va faire une autre lecture. Matthieu chapitre 3 et verset 1. Vous l'avez, Matthieu 3, 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée, au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Amen. La vie et le ministère de Jean-Baptiste, il est hors du commun. On voit que cet homme a été trouvé et il nous a raconté des choses particulières sur lui. Et je ne crois pas que Dieu nous demande d'aller tous dans un désert. Je crois qu'on aurait de la route à faire déjà. Et puis d'aller dans un lieu reculé. Et puis de se mettre des vêtements de poils de chameau, une ceinture de cuir. De manger des sauterelles, du miel sauvage. Ce n'est pas ça que Dieu demande à ses enfants. Mais Dieu a choisi Jean-Baptiste de manière particulière, pour un ministère particulier. Celui de préparer le chemin du Seigneur. Et c'est en cela qu'on ressemble à Jean-Baptiste. C'est en cela qu'on peut chercher à lui ressembler. Parce que Dieu veut nous utiliser pour préparer le chemin des cœurs. Pour que le jour où Dieu visitera quelqu'un, un homme, une femme, cette personne ait reçu un bon témoignage, ait déjà reçu quelque chose, ne serait-ce que par notre présence dans son travail, et qu'elle puisse dire, oui, il y avait quelqu'un de différent. Oui, je connais déjà Jésus, non pas Jésus en personne physiquement, mais au travers de son enfant que j'ai côtoyé. Que le Seigneur puisse nous utiliser pour préparer le chemin des cœurs, pour être des témoins, pour déjà parler au Seigneur, puisque nous on ne convertit personne. Nous, on ne sauve personne. Par contre, Dieu va nous utiliser pour les sauver. Dieu va nous utiliser pour qu'ils se convertissent eux-mêmes. Et nous sommes ressemblants à Jean-Baptiste dans ce domaine-là, c'est que nous préparons le chemin du Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure, j'étais vraiment encouragé par les chants, puisqu'il était chanté, ceci, « Aplanissons nos sentiers, enlevons les pierres ». C'est cette image du roi qui avait rendez-vous quelque part, qui allait quelque part, il envoyait devant lui des ouvriers qui étaient là et qui, lorsqu'il y avait des cailloux sur le chemin, ces ouvriers passaient avant lui et préparaient le chemin, ils aplanissaient le chantier. Le roi ne marchait pas à pied, il était souvent sur un char, sur une monture, quelque chose. Et pour éviter tout désagrément, que le char il soit ballotté comme ça, eh bien, on aplanissait le sentier, on enlevait les cailloux, on mettait, quand il y avait des trous, on remplissait de terre, on faisait quelque chose, en tout cas pour que la route soit pavée, soit belle devant lui, soit préparée, pour que son chemin soit plus facile. Et c'est exactement ce que nous devons faire. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a dû faire. Je vous fais une deuxième lecture dans Matthieu chapitre 11, au verset 7. Il est dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Amen. Voyez un peu l'éloge qu'il a fait, le Seigneur Jésus lui-même, de Jean-Baptiste. Il a quand même dit des choses impressionnantes. Qui est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que ce qui a attiré les gens à Jean-Baptiste, on a vu qu'il y avait toute une foule qui venait à Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Et on voit que ce qui a attiré ces gens, ce n'est pas sa garde-robe. Ça vous aurait attiré, vous? Je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas que ce soit son église dans le désert. C'est une belle église, ça? Nous, on se plaint quand le chauffage est trop fort, pas vrai? Il faut mettre la ventilation. Quand il fait trop chaud, on demande la clim. Si les chaises ne sont pas assez confortables, etc., vous voyez, ça va nous aigrir. Eh bien, lui, il avait le désert comme église. C'est super, non? Est-ce qu'on irait dans le désert? Lorsqu'on voit les comptes rendus des missionnaires en Afrique, on voit qu'il y a, pour seul banc, ils ont des poutres, hein, qui n'ont pas été polies avant d'être assises dessus, mais qui sont polies parce qu'à force de s'asseoir dessus, elles ont été polies. Parce qu'ils viennent aux réunions, et ils sont là, et ils passent des moments merveilleux dans le Seigneur. Le Seigneur confirme sa parole. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Est-ce que c'est son menu qui est intéressant? Je crois pas, hein, sauterelles, vous mangeriez des sauterelles? Alors même si on sait que là-bas, dans ce pays-là, les sauterelles sont plus grosses et que ça serait comme si nous, on mangerait une caille, je sais pas. Une caille, c'est pareil, c'est impressionnant, manger une caille. Les sauterelles, mais c'est quelque chose qui se fait. Mais lui, il était là, des sauterelles, du miel sauvage. Et ce qui me marque, c'est quatre choses chez Jean-Baptiste. Il était utile dans la main de Dieu pour amener à la repentance une multitude de gens. Il a préparé le chemin du Seigneur. Est-ce que vous aussi, vous avez soif de servir le Seigneur? Vous voulez être une coquille pleine de vie? Vous voulez être une coquille vide? Moi, je veux être une coquille pleine de vie. J'ai besoin du Seigneur. Est-ce qu'on veut servir le Seigneur? Est-ce qu'on veut être cette église que Dieu utilise pour toucher le monde, pour éclairer le monde? Moi, je voudrais qu'on soit cette église. Quatre caractéristiques. La première, c'est son courage et sa fidélité dans l'annonce de l'Évangile, dans l'annonce du message que Dieu voulait transmettre. Jean est marquant par ce fait-là, c'est qu'il a eu du courage pour prêcher. Vous avez vu ce qu'il leur dit, race de vipères. Ouh là là. Vous avez vu ce que ça a fait à Jésus, hein, de se monter contre la religion de l'époque, contre les religieux. Lui, il n'hésitait pas, race de vipères, qui vous a appris, etc. Il était prêt à reprendre devant tout le monde. Parce qu'il voulait annoncer un message, il avait reçu un message. Et non seulement il était courageux, mais il avait de la fidélité. Il n'a pas transformé le message, il n'a pas voulu l'interpréter comme il voulait, mais il a bien étudié le message et il l'a transmis d'une manière fidèle. Repentez-vous, convertissez-vous. C'est ce message qui a été repris dans Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, disait Jean. Repentez-vous. Est-ce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, fidèles à ce message qu'on a reçu nous-mêmes, que Dieu nous a confié, auquel peut-être on a, sûrement, sinon on n'est pas enfant de Dieu, auquel on a répondu, repentez-vous, convertissez-vous. Est-ce qu'on a ce courage d'annoncer ce message, cette fidélité de dire, je ne vais pas transformer le message, tu sais, il suffit que tu donnes beaucoup d'argent à l'église et tu vas être sauvé. Est-ce que ça n'a pas été fait? Bien sûr que ça a été fait. Le message a été tordu. Tu sais, si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, Dieu ne pourra pas t'empêcher, ne pourra pas te priver d'une bonne place dans le ciel. Est-ce que nous avons vraiment ce message, c'est que c'est par la repentance, par la conversion, qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi? Est-ce qu'on garde ce message précieux sans le transformer? Et alors vous allez me dire, mais moi Jérémie, j'ai pas la parole facile, moi j'ai pas l'appel pour prêcher, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète comme Jean. Oui, quelqu'un disait ceci. Je ne sais pas s'il le disait à son stagiaire, j'en sais rien. Mais il disait, écoute-moi bien, prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole. Et si c'est indispensable, parle. Vous avez compris? Et seulement si c'est indispensable, parle. Il faut réfléchir à ça. Prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole. Seulement s'il le faut, parle. Ça veut dire que notre manière de vivre, notre comportement est le message. Il est déjà un message. Nous sommes une lettre lue, vivante pour le Seigneur. Vous savez, quand on fait la queue à la caisse, quelquefois, on a marre. On est excédé. Et puis, on pourrait être tenté de manifester notre excès, notre colère, notre impatience. Et si jamais on vient de parler du Seigneur, ou si jamais même il y avait quelqu'un derrière nous à qui on devrait parler du Seigneur plus tard, et que je dis à la caissière, écoutez, hein, dépêchez-vous, et ça va, et on n'a pas le temps, etc., ou que je commence à être grossier, croyez qu'elle va recevoir le message de paix, d'amour, de joie, de patience que je vais lui apporter plus tard? Et si je veux pouvoir donner une Bible, et que je n'ai pas le comportement qui va adéquat, le jour où la personne va lire la Bible, elle va dire oui, mais c'est adaptable, c'est interprétable, la preuve, la personne ne vit pas en conformité. Alors déjà, est-ce qu'on est fidèle à la repentance? Est-ce qu'on vit la repentance? C'est un mode de vie la repentance aussi, je crois. Est-ce que régulièrement, quand on faute, quand on pêche, parce que ça nous arrive encore, il faut être honnête, lorsqu'on se manque sur quelque chose, est-ce qu'on a cette attitude de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti, peut-être, je ne sais pas. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait telle chose ou j'ai pas fait telle chose que j'aurais dû. Je te demande pardon et d'aller voir la personne vers qui, à qui on a fait du mal, à qui on a menti, à qui ou peut-être envers qui on s'est mis en colère et de lui dire à toi aussi je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je sais que c'est pas bien. Je sais pas bien. Et le Seigneur m'a montré que j'avais tort. Une chose qui m'a marqué chez mon père, c'est que même si j'étais tout petit, il venait régulièrement me dire « Jérémy, je te demande pardon parce que j'ai fait ça. » Quelquefois, il m'avait rien fait, mais il avait eu une attitude. Je vais vous donner un exemple. Vous ne lui direz pas que je vous l'ai dit? Vous pouvez, pas de problème. Il assumera, j'en suis sûr. Un jour, on va dans une carrosserie. Une décharge, comment on dit ça? Là où une casse. C'est bien, merci. Une casse auto. Et puis on va, tout ça. Et puis papa cherchait juste un petit bidonnier, un petit bouton de porte, quelque chose. Et puis il arrive, il va dans cette casse. La personne lui dit, allez dans la casse. Et puis si vous voyez une voiture qui a la chose, vous la démontez et vous prenez cet objet et vous revenez et puis on verra le prix qu'on vous le fera. Et puis lui, il commence, moi j'étais avec lui tout petit, et puis on marche dans la casse, on va à droite, à gauche. Et puis d'un coup, il voit par terre, pas sur une voiture, par terre, il voit quelque chose, un objet qui correspondait à ce qu'il voulait. Il voit le bouton qu'il voulait. Vous voyez, c'est bien, non? Et puis il commence à dire, c'était pas sur une voiture. Et moi, je le regarde avec des gros yeux. Et j'étais petit, mais je savais que c'était du vol. Puis il me regarde, il fait, mais c'était pas sur une voiture, puis c'est par terre, comme ça. Puis je le vois discuter avec lui-même. Puis je suis impressionné. Quoi. Puis au final, je le vois changer. Et puis, au bout d'un moment, il dit, non, quand même, c'est pas bien. Et puis, il y va, il présente, et la personne lui dit, je vous le donne. C'est gratuit pour ça, c'est pas grave. Prenez-le. Et puis, voilà qu'il prie, il prie. Les jours passent. Et à un moment où il se tient devant le Seigneur lui rappelle ça. Et lui dit, va voir Jérémy. Parce que moi, ça me travaillait. Mon père n'a jamais dit un gros mot. Jamais je l'ai entendu dire un gros mot, mon père. Jamais je l'ai entendu mentir. Jamais j'ai eu ça. Et les quelques fois où il est venu demander pardon quand même, c'était parce qu'il se mettait en colère. Et quelques fois, la colère l'emportait sur la correction qui était normale. Mais je le valais bien. Et là, il vient me voir, il me dit, Jérémy, tu te souviens de ça? Je dis, ah oui, je m'en souviens très bien. Il me dit, le Seigneur m'a dit de te demander pardon. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû discuter. Tu sais, c'est pas bien, le vol, c'est pas bien. Je dis, je sais. Et puis il me dit, je te demande pardon. En pleurant, il m'a dit ça. Et ça m'a marqué. Combien de fois ça a été comme ça? Une fois, pareil, il m'a corrigé. J'avais fait vraiment quelque chose de grave. Il m'a vraiment corrigé. Et il m'avait fait mal. Et moi, j'avais dit, j'avais un peu joué la comédie. J'avais fait semblant qu'il m'avait fait plus mal que ce qu'il fallait. J'avais aggravé ça. J'étais tout petit. Et il s'est senti pris de remords. Il est venu me dire pardon, Jérémy. Pas pour la correction, mais pour ce qui était en trop peut-être. Et il me le disait à chaque fois en pleurant. Est-ce qu'on vit la repentance aujourd'hui? Est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on vit la conversion? C'est-à-dire, je ne fais plus selon ma volonté, j'obéis à Dieu. Je me suis engagé par les eaux du baptême. J'ai dit devant tout le monde, et tout le monde, ce n'est pas que des hommes, devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant tout le monde, j'ai dit que je suivrai Jésus coûte que coûte. Que j'obéirai au Seigneur, qu'il est désormais mon roi, le maître dans ma vie, parce qu'il m'a sauvé. Je m'engage avec lui. Et est-ce que notre engagement tient toujours? Ça, c'est important. De quelle manière on vit notre engagement? C'est important. Deuxième point, c'est sa consécration entière à son Dieu. Vous avez vu Jean-Baptiste? Il a abandonné peut-être le confort de la maison. Il a abandonné toutes ces choses, alors peut-être qu'il est rentré la nuit, je ne sais pas, ce n'est pas dit. Il est dit qu'il était il se tenait dans les lieux déserts. Il n'a pas choisi le beau confort de la synagogue, avec les chaises, etc. Il est allé dans un lieu éloigné. Il n'a pas choisi les bons restaurants. Vous savez, quelquefois, on peut être attiré par les bonnes choses, il n'y a pas de mal. Mais lui, il a dit, moi, Dieu me veut dans le désert, prêcher un message clair, me tenir devant lui. Il y avait une tenue, je suis sûr que ce n'est pas lui qui l'a choisi comme ça. Il y avait quelque chose, un message derrière, une annonce, il y avait une humilité qui était là, et on va le voir. Mais vraiment, il s'est consacré entièrement à son Dieu. Et ça, c'est la chose qui doit nous marquer, hein, nous, enfants de Dieu, une consécration. Vous savez, toutes ces choses, je me les prêche à moi-même. Je me les dis à moi-même. Dieu me l'a dit avant de vous le dire. Vraiment, pour moi, c'est sérieux et je me parle et je me dis qu'est-ce que j'ai comme progrès à faire. Lorsque je pensais à cette chose ce matin, je méditais encore cette chose, je réfléchissais sur cette parole, prêche, 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 et parle si seulement c'est indispensable ou s'il le faut. Et je pleurais devant Dieu, je dis Seigneur, apprends-moi à vivre avant de dire. Et cette consécration qui marquait la vie de Jean, je veux que ce soit la mienne. Il a été prêt à renoncer à tout confort. Il a été prêt à servir son maître coûte que coûte. D'ailleurs, il a dû reprendre le roi Hérode, qu'il l'a fait. Lui, il ne le voulait pas de suite. Il a repris cet homme concernant une alliance qu'il avait faite avec une femme. Il a pris une femme qui n'était pas la sienne, qui était déjà quelqu'un. Il l'a repris et ça n'a pas plu au roi. Il l'a fait enfermer. Puis après, cette femme l'a fait décapiter. Il a perdu la vie à cause de sa consécration à Dieu. Parce qu'il a eu le courage d'annoncer ce que Dieu avait dit, de dénoncer le péché. Ça l'a même mené à mourir à cause du message. Et je pense à ces deux textes, je vous les cite dans Matthieu 6. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il nous faut savoir où est notre trésor, qu'est-ce qui est indispensable, l'essentiel pour nous. Est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est le service pour Dieu? Est-ce que c'est notre vie, notre engagement pour Dieu? Ou est-ce que c'est les choses que nous propose le monde? Même les choses légitimes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre de côté, ça veut dire qu'il faut mettre des priorités en place. Il faut que Dieu ait la priorité. Il faut que sa volonté ait la priorité dans ma vie. Matthieu dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra sa vie, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Et je suis sûr que Jean-Baptiste, il a retrouvé sa vie. Vous croyez? Moi je crois. Même si elle était raccourcie sur cette terre, elle est pour l'éternité, en haut, auprès du Seigneur. Merci Seigneur. Et personne ne sera forcé par Dieu de porter sa croix. Et ce n'est pas la croix de Jésus, c'est sa croix. Personnellement, notre croix. Qui représente la mort à nous-mêmes. Renoncement à notre propre volonté. Conformité à la volonté de Dieu. Dans Marc 15, 21, on voit un homme qui a été forcé de porter la croix de Jésus. Ça représente peut-être aussi les fois où on impose aux autres notre foi. On impose aux autres notre manière de vivre. Ça devient de la religion. Et je vous le dis, et je me le dis, ça sera leur perte. Ça ne sera pas leur vie. On n'amène personne au Seigneur en le forçant à judaïser, entre guillemets, mais à même devenir religieux, à appliquer, à faire le chrétien, jouer le chrétien. Tant qu'on ne l'est pas vraiment, ça ne sert à rien de nous l'imposer. On va empêcher les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Troisièmement, c'est son humilité. Vous avez vu Jean, il est là et il n'a pas honte de perdre, il n'a pas peur de perdre sa place. Les gens au début venaient tous à lui. Il a précédé Jésus. Il était avant lui, vous imaginez quand même la place. Dieu m'a choisi pour annoncer un message et voilà, les gens viennent à moi, je les baptise, j'annonce la parole. Il aurait pu s'enorgueillir. Combien de personnes à l'église des fois sont là, c'est ma chaise. C'est ma chaise, non. Ma place. Ça, c'est mon estrade. C'est mon violon. Caroline a dit, c'est mon violon. Personne n'y touche. Vous savez, notre place. Ah, moi, ma place. Mon service. C'est mon service. C'est ma place. Et si quelqu'un viendrait nous prendre la place, ah là là, ça ne va plus. C'est ma place. C'est la mienne. Non. Je crois qu'il nous faut avoir cette humilité de dire, moi, je sers un temps. Il y en a qui m'ont précédé. Il y en a d'autres qui me suivront. Gloire à Dieu. Je fais ma part, et encore même, je dis, comme c'est conseillé, comme c'est enseigné dans Luc 17, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs super utiles. Non? Ah, inutiles, c'est bien vous écouter. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est l'humilité. Dis-moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis inutile. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Il en faut de l'humilité pour arriver à dire ça. Moi-même, des fois, je dis merci Seigneur parce que j'ai été utile aujourd'hui pour toi. Seigneur, aide-nous à garder cette humilité devant toi. Quand Jésus est arrivé, on est venu dire à Jean, Voilà, tu vois, il y en a plein là. Il y en a, ils vont à lui. Ils vont aller, tous vont à lui. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jean ? Exactement. Dans Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelquefois, dans nos prières, on entend « Il faut que je diminue pour qu'il croisse. » C'est pas comme ça. C'est « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et tant qu'il ne croit pas dans mon cœur, je ne pourrai pas diminuer. Je ne pourrai pas diminuer. Donner plus de place au Seigneur. Plus de place. Et quatrièmement, je crois que Jean-Baptiste était l'homme qu'il était et que sa grandeur lui venait de la grandeur qui était en lui. Parce que Jean-Baptiste est le seul, et on le déduit avec Jésus, mais c'est le seul dont il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est dit ça dans Luc 1,15. Je parle à Zacharie, il est dit, voilà, il sera un sujet de joie, etc. Et il sera rempli dès le sein, du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Et sa grandeur lui venait de la grandeur de celui qui était en lui. Est-ce qu'on est vide ou est-ce qu'on est plein du Seigneur, plein du Saint-Esprit, qui lui est très très grand et qui va pouvoir façonner notre caractère pour que nous ressemblions à Jésus, pour que nous soyons nous-mêmes des lumières sur cette terre et que nous puissions éclairer, entraîner les autres jusqu'au Seigneur, jusqu'à ses pieds pour qu'ils puissent y découvrir la grâce de Dieu, sa miséricorde et son œuvre à la croix. La Pentecôte a changé des hommes. Vous avez vu ça ? La Pentecôte a littéralement changé leur manière d'être, leur manière de vivre. D'hommes peut-être timides, ils sont devenus pleins de zèle pour le Seigneur. Vous avez vu ? Ils se mettent à prêcher, ils se mettent à demander le secours du Seigneur. J'aime bien acte 2, mais j'aime surtout et aussi acte 4, 29 à 31, je vous le lis. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec timidité. Ah, avec assurance, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient quelqu'un de grand en eux qui les rendait grands pour le Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous devons demander au Seigneur. Alors, quelles sont les menaces que nous avons aujourd'hui ? Je vous pose une question. On termine avec ça. Quelles sont les menaces qui reposent sur nos têtes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un magistrat avec une épée ou des religieux devant la porte qui nous attendent à la sortie pour nous tuer si nous parlons de Jésus ? Est-ce qu'on a quelqu'un ? Je ne sais pas, quelle est la menace qui pèse sur nos têtes ? J'entends que des murs. Est-ce que quelqu'un a quelque chose vraiment pertinent ? Vous envoyez, vous, des grandes menaces ? Comparé à ce qu'ils avaient, j'en vois pas. Hein. Alors nous-mêmes, on n'aurait même pas besoin de... On n'a aucune raison de ne pas avoir d'assurance, puisqu'il n'y a presque pas de menace. La seule menace, c'est de pouvoir passer moins de temps devant The Voice, Koh-Lanta, ce que vous voulez. Là, les... C'est ça la seule menace. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça va beaucoup moins nous intéresser. La seule menace qui est sur notre cœur, c'est de vider, de plus du tout fréquenter les bars, de plus du tout fréquenter les boîtes de nuit, de plus du tout nous énerver, nous mettre en colère pour rien. Et la colère qui va nous animer sera une sainte colère, c'est-à-dire maîtrisable. Toutes ces choses, la seule menace qu'on a sur notre vie, c'est de plus être grossier. C'est une bonne menace, ça, non ? Il n'y a pas de candidat. Enfin, ça, je sais, parce que je dis quelque chose de vraiment étonnant. Quand même. Et ouais, il n'y a pas de menace. Alors on devrait avoir encore plus de zèle. Ou est-ce qu'il faut que Dieu redonne des menaces pour que d'un coup on se réveille ? Jérémie, qu'est-ce qu'il te faut comme menace pour que tu te réveilles pour le Seigneur ? Et que tu cherches à être rempli du Saint-Esprit ? Et comme l'a répété et l'a annoncé M. Bordeneuve la semaine dernière, ce texte, il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit » veut dire « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». C'est plus profond quand même. « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Je ne veux pas attendre des menaces. Parce que le temps presse, et il nous faut racheter le temps. Que nous puissions nous réveiller. Nous-mêmes, je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut Dire, moi, je veux. Je ne peux pas de moi-même, mais je veux. Et je fais confiance au Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-nous. On incline nos fronts. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur ton Église. Accorde-nous la promesse que tu as faite par la bouche de ton prophète et que tu as déjà commencé à accomplir. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais couler sur nous ton huile sainte. Fais couler sur nous ton huile pour que nous soyons ses témoins efficaces. Nous voyons la vie de Jean-Baptiste, Seigneur. Et je veux te demander de nous aider à chacun à être des Jean-Baptiste, des hommes, des femmes, des enfants qui préparent ton chemin dans le cœur de ceux qui nous entourent et de ce monde. Nous ne réalisons pas et je ne réalise pas combien de fois je suis regardé par le monde. Combien de fois on me regarde et on regarde si je suis différent, si ce que je dis, je le vis. Alors Seigneur, je veux faire attention à cela. Et nous voulons vraiment faire attention à ça. Et en ce jour de Pâques qui nous rappelle ta mort et ta résurrection, nous voulons nous empresser, Seigneur, de réaliser quel privilège nous avons et quel privilège est à notre portée pour le monde. Pour leur accorder, Seigneur, cette grâce, ce don, Seigneur, gratuit de la vie éternelle, pour prix de notre foi simplement. Mon Dieu, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Accorde-nous la sagesse, l'humilité de comprendre et de chercher à être rempli de ton Saint-Esprit. Il n'y a aucune technique, aucune recette, Seigneur. Simplement de se tenir devant toi et d'attendre la promesse. C'est là ce que tu as demandé. Et c'est ce que nous voulons faire. Parce que nous t'aimons. Et parce que nous aimons le monde qui est devant nous. Nous pensons à nos proches, nos enfants, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos familles, nos collègues, nos amis. Et nous voulons tous les avoir pour toi. Et même si nous connaissons la prophétie qui dit que tous n'entreront pas, nous voulons quand même qu'au moins quelques-uns, ceux que tu as, ceux que tu sais qui vont venir à toi, puisque tu l'as dit, dans cette ville, j'ai un peuple nombreux qui m'appartient. Et il faut qu'ils entendent la bonne nouvelle. Moi-même, je veux faire partie de ceux qui proclament la bonne nouvelle, ne serait-ce que par mon comportement et ma vie, et avec quelques mots si tu le permets. Que ton nom soit béni encore pour cette matinée, tu nous raccompagnes et tu nous bénis. Tu bénis encore ce camp qui se déroule, que tout serve, Seigneur, à ce que des âmes se donnent à toi, à ce que nos jeunes, Seigneur, nos ados, puissent vraiment se donner entièrement à toi et être zélés pour toi, être remplis du Saint-Esprit. Tu les baptises dans le Saint-Esprit. Tu nous baptises dans le Saint-Esprit, Seigneur, à chacun. Je crois que tu peux le faire, Seigneur. Et je m'attends à toi. Nous attendons à toi. Amen.